Vous écoutez On lit pour vous.
Des microplastiques partout en nous, un dossier de Chloé Bourquin, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. On en retrouve dans les endroits les plus reculés de la planète, du sommet de l'Everest jusque dans les profondeurs de l'océan Arctique. Mais en plus de soulever la question de l'impact de ces substances sur l'environnement, l'accumulation de microplastiques dans notre corps préoccupe de plus en plus les scientifiques. Nos corps imprégnés. Nous commençons tout juste à réaliser que les microplastiques sont partout, y compris dans notre corps, affirme Christy Tyler, professeure de sciences de l'environnement à l'Institut de technologie de Rochester. Que sont les microplastiques? Les microplastiques sont de minuscules morceaux de plastique dont la taille peut varier entre un micromètre soit la taille d'une bactérie, et 5 mm. En deçà de 1 micromètre, on les appelle nanoplastiques. Ce n'est pas un polluant unique. Ça peut être des plastiques de toutes sortes, qui peuvent prendre différentes tailles et différentes formes, explique Christy Tyler, professeure de sciences de l'environnement à l'Institut de technologie de Rochester. Le problème avec le plastique, c'est qu'il ne devient jamais autre chose que du plastique, souligne Matthew Campen, professeur de sciences pharmaceutiques à l'Université du Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Le plastique, poursuit-il, se fragmente en particules de plus en plus petites sous l'action de la chaleur, des UV et du temps. Or, plus les microplastiques sont petits, plus ils peuvent pénétrer profondément dans notre corps, et moins ils sont faciles à détecter. On a souvent en tête l'image du doigt recouvert de petites particules de plastique. Mais ce qu'on retrouve dans notre corps, c'est beaucoup, beaucoup plus petit que ça, souligne Matthew Campen. De nombreux organes touchés. Ces dernières années, les études se sont multipliées à ce sujet. Chez l'humain, des microplastiques ont été trouvés dans le sang, le lait maternel, les testicules, le foie, les reins, les poumons, le cerveau. Et dans des quantités loin d'être négligeables. Par exemple, en réalisant des prélèvements sur des cerveaux de personnes décédées, Matthew Campen et son équipe ont trouvé tellement de microplastiques que cela représentait 0,5% du poids total des échantillons. Plus préoccupant encore, l'exposition aux microplastiques débute avant la naissance. Des scientifiques en ont trouvé dans le placenta, mais aussi dans les selles des nouveau-nés, à des concentrations 10 fois supérieures par rapport à des selles d'adultes. Et plusieurs études ont montré que la quantité et la variété des microplastiques auxquels nous sommes exposés augmentent année après année. Pourquoi est-ce un problème? On ne sait pas encore vraiment si c'est leur petite taille ou les produits chimiques qu'ils contiennent qui pourraient poser problème, explique Tracy Woodruff, directrice du programme sur la santé reproductive et l'environnement de l'Université de Californie à San Francisco. De la même façon que les particules fines peuvent encrasser nos poumons, les microplastiques peuvent s'infiltrer dans nos organes, s'y loger et pourraient éventuellement y causer une inflammation. Par ailleurs, il a déjà été prouvé que plusieurs produits chimiques relâchés par les plastiques sont néfastes pour la santé humaine, comme les phtalates, les PFAS ou le bisphénol A. Mais ces substances pourraient n'être que la pointe de l'iceberg de ce que peuvent relâcher les microplastiques qui s'accumulent dans notre corps. Au printemps 2024, des chercheurs suisses et norvégiens ont publié une base de données, la plus complète à ce jour, répertoriant les 16 000 produits chimiques utilisés ou présents dans les matières plastiques. Pour plus de 10 000 d'entre eux, on ne sait pas s'ils sont dangereux ou non, en raison du peu d'informations dont on dispose à leur sujet. Plus de 4200 sont jugés préoccupants pour la santé ou l'environnement. Et parmi ceux-ci, 3600 ne sont pas régulés actuellement. Un risque pour la santé? Les microplastiques sont parfois qualifiés de tueurs invisibles. Mais ce n'est pas tout à fait ce que disent les scientifiques. Selon Matthew Campen, on n'est pas encore capable de relier notre exposition aux microplastiques avec des conséquences sur la santé. Mais les études montrant des liens préoccupants s'accumulent. Par exemple, des chercheurs ont montré qu'il y avait plus de microplastiques dans le placenta chez des femmes ayant accouché de bébés prématurés, que l'accumulation de microplastiques dans le cerveau était lié à un plus haut risque de démence, que leur présence dans les parois des artères était associée à un plus haut risque de maladies cardiovasculaires. Mais cette accumulation est-elle un signe de défaillance de l'organe? Ou, à l'inverse, cette défaillance a-t-elle été causée par cette accumulation de microplastiques? C'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, résume Matthew Campen. On a également retrouvé des microplastiques dans les testicules et les selles, et ce, alors que la fertilité masculine est en baisse et que les cancers de l'intestin chez les jeunes adultes sont en hausse. Mais là encore, le lien de cause à effet reste difficile à établir. On ne sait pas à quel point les microplastiques ont un rôle là-dedans, souligne Tracy Woodruff. Toujours est-il que tous les chercheurs interrogés par la presse, bien que prudents sur cette question, sont très inquiets de ce que cette accumulation pourrait provoquer sur le long terme. C'est un problème qui nous concerne, mais qui concerne aussi les générations à venir, souligne Steve Allen, chercheur au sein de l'ONG Healthy Heart. Vous écoutez? Des microplastiques partout en nous, un dossier de Chloé Bourquin, paru le 15 décembre 2024, dans la presse. On en mange, on en respire. Des microplastiques s'accumulent de plus en plus dans notre corps. Mais comment parviennent-ils à y pénétrer? Les scientifiques ont identifié deux voies d'exposition principales, l'ingestion et l'inhalation. Au menu, tous les jours. Les études sur l'alimentation se sont d'abord concentrées sur le poisson et les fruits de mer, en raison des préoccupations soulevées par la présence croissante de microplastiques dans les océans. Plus récemment, des chercheurs ont montré qu'on pouvait en retrouver aussi dans toute une série d'aliments, fruits et légumes, viande, lait, riz, sucre, miel, sel, et dans l'eau potable, dans l'eau en bouteille, mais également dans celle du robinet. Donc une chose est sûre, nous mangeons quotidiennement des microplastiques. Mais comment se sont-ils retrouvés dans notre assiette? L'emballage, généralement en plastique, est souvent montré du doigt. En particulier, le polystyrène en contact avec la viande ou les bouchons des bouteilles de plastique qui relâchent des particules à force d'être vissées et dévissées. La transformation des aliments est aussi remise en question. Il est par exemple recommandé d'éviter de consommer trop d'aliments ultra-transformés qui ont été en contact de nombreuses fois avec du plastique au cours de leur préparation. Qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé? Il s'agit d'un aliment produit de façon industrielle, en plusieurs étapes, à partir de plusieurs ingrédients et qui, souvent, a nécessité l'ajout de produits chimiques ou d'additifs au cours de sa transformation. Parmi les aliments ultra-transformés, on retrouve notamment les céréales à déjeuner, les barres tendres, les gâteaux, pains et biscuits industriels, les boissons sucrées, les bonbons, les mets prêts à manger, pizza, soupe en conserve, croquettes de poulet, repas congelés, et les yogourts aromatisés. Mais pour Matthew Campen, professeur de sciences pharmaceutiques à l'Université du Nouveau-Mexique, le problème est peut-être ailleurs. On soupçonne que l'agriculture pourrait être une pièce clé de ce casse-tête, explique-t-il. Selon lui, notre alimentation pourrait être contaminée beaucoup plus en amont, avant même que les aliments ne soient transformés ou emballés. Cela pourrait être dû, par exemple, à l'utilisation dans les champs d'eau ou de boue d'épuration employée comme fertilisant et chargée en microplastique. Les microplastiques s'accumuleraient ainsi dans les champs au fil des années et contamineraient les végétaux qu'on y fait pousser. Ces microplastiques remonteraient ensuite la chaîne alimentaire, en passant éventuellement par le bétail, pour finir dans notre assiette. Du plastique dans l'air. L'air contient lui aussi une grande quantité de microplastiques, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À chaque respiration, on inhale ces microplastiques. Certains chercheurs pensent que cela pourrait représenter jusqu'à 50 % de notre exposition, nous dit Barbro Melgert, professeur d'immunologie respiratoire à l'Université de Groningue aux Pays-Bas. Plusieurs études ont montré que l'air en intérieur contenait, en moyenne, 50 fois plus de microplastiques qu'à l'extérieur, voire plus. Dans les maisons, la grande majorité de ces microplastiques sont des fibres issues de vêtements, de meubles, de tapis, de papier peint. À l'extérieur, la qualité de l'air varie grandement d'un endroit à l'autre. Mais les scientifiques ont montré que si on est proche d'une route et en heure de pointe, la quantité de microplastiques contenus dans l'air augmente considérablement. Vous écoutez « Des microplastiques partout en nous », un dossier de Chloé Bourquin, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. En quelle quantité? S'il ne fait aucun doute qu'on respire et qu'on avale des microplastiques au quotidien, plusieurs incertitudes demeurent. Quelle est la voie d'exposition prédominante et à quelle quantité est-on exposé chaque jour? Il n'y a pas encore de consensus sur la question, indique Steve Allen, chercheur au sein de l'ONG Healthy Heart. Un rapport du Fonds mondial pour la nature, WWF, publié en 2019, suggère qu'on pourrait ingérer environ 5 grammes de microplastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Cette étude a depuis été fortement critiquée par des chercheurs, remettant en question sa méthodologie, et le chiffre avancé est souvent considéré comme une surestimation. Mais la question n'est pas complètement tranchée pour autant. Une revue de la littérature publiée en juin dernier est arrivée à la même conclusion. On estime aujourd'hui qu'un adulte ingère entre 46 000 particules et 1,3 million de particules par an, soit environ 287 grammes par an, ce qui revient à un peu plus de 5 grammes par semaine. Et à cela s'ajoutent les 48 000 à 22 millions de particules de microplastique qu'on inhale chaque année, voire plus si on vit dans une ville polluée. Certains chercheurs, comme Matthew Campen, pensent même que ces 5 grammes par semaine pourraient être sous-estimés puisque les techniques actuelles ne permettent pas de détecter les plus petits fragments de plastique à l'échelle nanométrique. Or, plus on descend en échelle de taille, plus on trouve de microplastiques. On avale peut-être même une carte de crédit par jour. Mais rien n'est certain. On est encore en train de rassembler des données à ce sujet, souligne-t-il. Comment les éviter? Les microplastiques sont omniprésents. On peut essayer de limiter notre exposition à ces particules de plusieurs façons. Mais le plus important reste la réduction à la source, martèlent les experts. Dans les aliments, les chercheurs interrogés par la presse ont émis quelques conseils de base, comme éviter de chauffer un contenant de type Tupperware ou un biberon en plastique, ou de verser une boisson chaude dans un gobelet de plastique, ne serait-ce que pour éviter que des produits chimiques ne migrent du plastique vers la nourriture ou la boisson. Manger des aliments moins transformés peut également permettre de diminuer la quantité de microplastiques qu'on ingère. Aller vers des aliments qui sont plus bas dans la chaîne alimentaire peut aussi aider, puisque cela permet d'avoir moins de microplastiques qui se sont accumulés, avance Tracy Woodruff, directrice du programme sur la santé reproductive et l'environnement de l'Université de Californie à San Francisco. Pour simplifier, plus un animal s'est nourri au cours de sa vie de végétaux ou de proies contaminées par des microplastiques, plus il est susceptible d'en avoir lui-même stocké en grande quantité et donc de nous y exposer à notre tour si nous consommons sa viande. Donc, mieux vaut éviter de consommer trop de viande, en particulier de la viande grasse, résume Matthew Campen, professeur de sciences pharmaceutiques à l'Université du Nouveau-Mexique. Dans l'air qu'on respire, il est recommandé d'aérer son logement, de passer fréquemment l'aspirateur, d'utiliser éventuellement un purificateur d'air et d'éviter si possible les tapis en matière synthétique. Pour ce qui est des vêtements synthétiques, les porter libère 3 fois plus de microplastiques que les laver. Donc, il est fort possible qu'on en respire directement lorsqu'on les porte. Mais il n'y a pas encore eu d'études à ce sujet, avance Barbro Melgert, professeure d'immunologie respiratoire à l'Université de Groningen, aux Pays-Bas. Réduire à la source. De façon générale, les scientifiques recommandent d'éviter autant que possible les objets en plastique. Planches à découper, couverts, contenant Tupperware, bouteilles d'eau, lorsqu'il existe des solutions de rechange pour limiter sa propre exposition, mais aussi et surtout celle des générations futures. Certains chercheurs ont cependant souligné que, ne sachant exactement à quelle dose de microplastique nous sommes exposés quotidiennement, il reste difficile d'estimer à quel point ces conseils permettent réellement de diminuer son exposition de façon importante. Matthew Campen constate « Les microplastiques sont déjà dans les plats qu'on achète à l'épicerie, dans les aliments eux-mêmes, dans les sols des terres qu'on cultive. En fait, on ne peut pas vraiment les éviter. » Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. L'individu peut difficilement lutter à son échelle contre ce problème grandissant, résume Steve Allen, chercheur au sein de l'ONG LT Earth. Il faut surtout qu'on diminue la production de plastique. Donc, le geste le plus important qu'on peut faire comme citoyen, c'est de voter pour des personnes qui légiféreront pour mieux encadrer cette industrie, affirme-t-il. Ça fait des années qu'on le répète, mais personne n'écoute les scientifiques. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait déjà atteint le point de bascule, ajoute-t-il. C'était « Des microplastiques partout en nous », un dossier de Chloé Bourquin, paru le 15 décembre 2024 dans la presse.
Un programme pour aider les femmes. Un texte de la rédaction, paru le 5 novembre 2024 dans le Laurentien. l'Association du cancer de l'Est du Québec, ACEQ, en collaboration avec la Fondation Cancer du sein du Québec, propose un programme d'aide financière à l'achat de vêtements et de soutien-gorge adaptés à sa clientèle, et ce jusqu'au 1er mars 2025. L'objectif de ce programme est de permettre aux femmes ayant subi une mastectomie et éprouvant des difficultés financières d'avoir accès gratuitement ou à petit prix à des vêtements adaptés. Elles peuvent ainsi retrouver leur dignité et leur féminité, puisque ces vêtements font partie intégrante de leur normalité. C'est dans le cadre de l'édition 2023-2024 des subventions de soutien à la communauté que la Fondation Cancer du sein du Québec a accordé un financement à l'Association du cancer de l'Est du Québec de 20 000 via le programme d'aide financière à l'achat de vêtements et de soutien-gorge adaptés. Certains critères d'accessibilité s'appliquent. Être citoyenne canadienne ou résidente permanente et résider sur le territoire desservi par l'Association du cancer de l'Est du Québec. Être actuellement en attente d'une mastectomie ou en attente de reconstruction due à un cancer du sein ou un diagnostic du gène ou avoir subi une mastectomie partielle ou totale dans les 3 dernières années. De plus, la personne doit rencontrer les critères financiers établis. Les personnes intéressées à se prévaloir de ce programme peuvent le faire d'ici le 1er mars 2025. Pour plus d'informations, visitez le aceq.org. Pour plus de détails et pour faire une demande, communiquez avec Mme Annie Soucy, conseillère spécialisée du service chez Martine, par courriel boutique@aceq.org ou par téléphone au 88-724-0600, poste 2218. C'était un programme pour aider les femmes, un texte de la rédaction, paru le 5 novembre 2024 dans Le Laurentien.
Vacances dans le Sud. Un nouveau vaccin contre le virus chikungunya. Un texte d'Annie Labrec, paru le 12 décembre 2024 dans Québec Science. Vous planifiez des vacances sous le soleil cet hiver? Un nouveau vaccin contre le chikungunya, le seul approuvé au monde, est désormais disponible au Canada. Selon un récent rapport publié dans BMJ Global Health, le chikungunya a touché 18,7 millions de personnes dans 110 pays entre 2011 et 2022, avec un fardeau économique estimé à 2,8 milliards de dollars. Cette maladie virale, transmise par des moustiques, peut entraîner des douleurs articulaires souvent très invalidantes, des douleurs musculaires, des maux de tête accompagnés de fièvre. L'Amérique latine et les Caraïbes sont parmi les régions les plus affectées. Le vaccin est donc un outil préventif intéressant lorsqu'on visite ces régions. Comment fonctionne le vaccin contre le chikungunya? Le nouveau vaccin d'une seule dose, X-CHIC, a été approuvé par Santé Canada à l'automne 2024. Il s'agit d'un vaccin vivant atténué, c'est-à-dire qu'il contient des particules virales non pathogènes. Il stimule le système immunitaire pour que celui-ci produise des anticorps contre le virus chikungunya. Le vaccin n'est cependant pas recommandé aux personnes immunosupprimées. Le vaccin ne peut pas être donné aux patients immunosupprimés car il y a un risque théorique de réactivation, indique le Dr Alex Carignan, microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce que la maladie chikungunya? La maladie est provoquée par alphavirus chikungunya, un virus identifié pour la première fois en 1952 en Tanzanie et qui est transmis par des moustiques infectés. La durée d'incubation du virus, entre le moment où la personne est infectée et l'apparition des symptômes, varie de 3 à 12 jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, Les symptômes les plus fréquents sont des maux de tête et une fièvre d'apparition brutale, souvent accompagnée de douleurs articulaires sévères, souvent handicapantes. Peu de décès sont signalés en lien avec cette maladie. Si la plupart des gens guérissent d'eux-mêmes, d'autres souffrent de symptômes persistants. Le docteur Alex Carignan explique que ce qui caractérise le chikungunya est l'inflammation et les douleurs articulaires qui peuvent durer pendant plusieurs mois. Le mot chikungunya signifie « se déformer » dans la langue Kimakonde, la langue parlée en Tanzanie. Pas de cas endémique au Québec. Avec les changements climatiques, l'habitat des moustiques vecteurs de maladies pourrait s'étendre encore plus. Deux moustiques en particulier, Aedes aegypti et Aedes albopictus, sont responsables de la propagation du chikungunya. Ces moustiques peuvent aussi transmettre la dengue, le virus de la fièvre jaune et le virus Zika. Le territoire du moustique est en expansion. C'est ce qui a notamment mené à des éclosions du chikungunya dans certains pays d'Europe, même en France. Je crois que l'on n'a pas terminé d'observer des cas au cours des prochaines années, signale le docteur Carignan. Depuis 2014, l'année où la surveillance du nombre de cas a commencé, le Québec compte plus d'une soixantaine de personnes qui ont contracté la maladie en ayant voyagé dans un pays où le virus était en circulation. Jusqu'à présent, aucune éclosion de la maladie n'a été détectée au Québec. Quoi faire pour bien se protéger lors d'un voyage à l'étranger? Vérifiez les vaccins recommandés selon votre destination. Les recommandations varient selon le lieu et la période du voyage. Informez-vous sur les épidémies en cours, car elles surviennent souvent par vagues dans des zones géographiques spécifiques. Vous voyagez avec des enfants ou des jeunes? Puisque le vaccin contre le chikungunya n'est pas encore disponible pour les moins de 18 ans, assurez-vous que ceux-ci portent des vêtements à manches longues, surtout en début de soirée, là où les moustiques sont plus actifs. Utilisez un chasse-moustique efficace pour éviter les piqûres de moustiques. En cas de doute, consultez une clinique voyage. C'était « Vacances dans le Sud ». Un nouveau vaccin contre le virus chikungunya. Un texte d'Annie Labrecque, paru le 12 décembre 2024 dans Québec Science.